Vous m'entendez pas? Si. Là, vous m'entendez. Les slides ne s'affichent pas, si? Ça va venir? Alors, comme on a déjà été dit, je suis directeur de recherche au CNRS, je travaille sur le climat polaire et j'ai participé à ces rapports du GIEC que je vais vous présenter maintenant. Donc, j'aimerais bien que les slides s'affichent maintenant, mais transparents. Est-ce que c'est moi qui dois le faire? Non? Voilà, c'est ça. Donc, très bien. Alors, ce que je vais vous raconter très rapidement, en 20 minutes, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. En fait, je vous ai mis là deux personnes, c'est les prix Nobel de physique il y a 2 ans, qui ont fait des travaux dans les années 60 déjà, pour la prévision du changement climatique. On voit ici un graphique qui montre le profil vertical de température simulé dans les années 60. Vous avez une courbe noire, c'est le profil vertical de l'époque. Donc vous montez en altitude, donc l'axe vertical c'est l'altitude, l'axe horizontal c'est la température, à droite c'est chaud, à gauche c'est froid, et donc on voit ce que vous connaissez quand vous montez dans l'avion ou en montagne, en haut il fait plus froid, donc ça commence à diminuer la température, et au moment il y a la température qui augmente, donc là à 10 km d'altitude il fait moins 50, c'est le pilote qui vous le dit quand vous traversez l'Atlantique. Et en fait, donc, ces simulations des années 60 déjà, par exemple la courbe rouge, c'est une simulation de la température pour un doublement de CO2, de la concentration de CO2, et donc, vous voyez en bas la courbe s'est décalée vers la droite, donc vers le plus chaud, un réchauffement en bas, mais on voit un refroidissement en haut. La courbe rouge en haut, elle est à gauche de la courbe noire. Et donc ça, c'est l'empreinte digitale, si vous voulez, du changement climatique induit par une augmentation de l'effet de serre. C'est que ça se réchauffe en bas, mais ça se refroidit en haut. C'est très clairement la signature spatiale de cet effet-là. Par exemple, si le changement climatique était dû à l'augmentation du rayonnement solaire, on n'aurait pas cette signature-là. Donc ça, c'est vraiment, comme je disais, l'empreinte digitale prédite dans les années 60 et observée aujourd'hui. Et donc, pour ce genre de choses, on peut avoir un prix Nobel. Voilà. Après, ce que je vais vous raconter, c'est la synthèse des 6 rapports des rapports du GIEC dans le 6e cycle qui a duré entre 2015 et 2023, qu'on a finalisé avec ce rapport de synthèse qui est en bas, dont j'ai coordonné une des 3 sections. Mais en fait, les rapports du GIEC, il y en a plusieurs au cours de ce cycle. Ensemble, ça fait à peu près 10 000 pages. C'est écrit par un millier de scientifiques internationaux, tous actifs dans le domaine. Les rapports sont entièrement basés sur la littérature scientifique publiée. Là, il y a 85 000 articles cités. Alors, un article scientifique, ça fait 10-15 pages. Donc, ça fait 1 million de pages de littérature scientifique qui est déjà dense au début, qui est condensée dans ces rapports du GIEC et que maintenant, je vais vous condenser en 20 minutes. Voilà. Quel gageur. Mais bon, il y a des rapports plus simples, il y a un résumé pour tous. Alors le lien, évidemment, vous n'aurez pas le temps de le copier, c'est pas grave, vous sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, vous cherchez résumé pour tous, GIEC ou IPCC, vous le trouverez, j'espère. 18 pages, facile à lire, vraiment à recommander. Voilà. J'entre dans le vif du sujet. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors, les émissions de gaz à effet de serre, malheureusement, elles continuent à augmenter. Vous voyez ici, en fonction du temps, depuis 1850 jusqu'en 2019, les différentes émissions de gaz à effet de serre, donc dues à la combustion des combustibles fossiles, au changement d'utilisation des terres, déforestation notamment, d'autres gaz à effet de serre, tout augmente encore. On arrive peut-être aujourd'hui, dans cette année ou l'année prochaine, à une stabilisation des émissions de CO2. Le gros, c'est évidemment les combustibles fossiles, charbon, gaz et pétrole. Donc, et ces émissions ne sont pas réparties du tout de manière égale. De façon historique, à gauche, vous voyez des émissions faites par l'homme depuis 1850. Évidemment, les régions anciennement industrialisées sont en tête de peloton. C'est l'Amérique du Nord, l'Europe. Nous, on a commencé à émettre très tôt, donc on a évidemment émis beaucoup. À droite, vous avez un graphique qui montre les émissions de 2019. Et là, on voit aussi des très grosses inégalités. Ben, les Américains du Nord émettent encore beaucoup, les Australiens. L'Europe a déjà diminué pas mal. L'Asie de l'Est arrive massivement. Et évidemment, ils sont nombreux aussi. Donc, il y a une forte disparité historique, une forte disparité entre régions, mais aussi à l'intérieur de chaque pays, évidemment, les riches émettent beaucoup plus. Donc, au niveau global, 10% des ménages qui ont l'empreinte carbone la plus élevée, comme vous voyez là, émettent 40% des émissions mondiales, puis les 50% qui ont l'empreinte carbone la plus faible émettent que 14% des émissions mondiales totales. Donc, il y a des inégalités vraiment à toutes les échelles spatiales. Et comme on continue à émettre, l'émission, c'est le robinet qui remplit la baignoire. L'atmosphère, c'est la baignoire qui se remplit. Bah, évidemment, elle se remplit de plus en plus avec le CO2. Donc là, c'est les chiffres de 2019 à 410 ppm CO2 par rapport à la concentration naturelle qui était de 280 ppm depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, on est déjà à 420. Donc ça continue évidemment et on voit à peine, même pas la petite diminution due au Covid, parce que en Covid, l'année Covid 2020, on a juste fermé le robinet de 7%, d'accord. Au lieu de faire couler plein pot, on a réduit les émissions de 7%, mais sur les concentrations à la fin, sur la baignoire, vous voyez pas ça quand, si pendant une année vous réduisez un tout petit peu le débit, ça se voit pas. Bien, et donc le climat il continue à changer. Vous avez ici la température moyenne globale depuis 1850 jusqu'en 2020. On prend toujours comme référence dans le GIEC la période 1850 à 1900 comme référence. Donc sur la moyenne sur les 10 dernières années, on est arrivé aujourd'hui à 1,15 degré de réchauffement par rapport à cette période. Et aujourd'hui, on a des températures que la Terre n'avait pas vues depuis 100 000 ans à peu près. Et l'année 2023, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, il y a un fort réchauffement, surtout aussi ces derniers mois, impressionnant. Ça sera très certainement la plus chaude année depuis le début des enregistrements, et 2024, ça va être pareil. Et on sait très bien à quoi c'est dû. C'est dû à l'activité humaine. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de doute scientifique raisonnable à ce sujet-là. On pouvait en douter peut-être dans les années 80. Le changement climatique était encore relativement faible, la science n'était pas aussi bien évoluée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus une probabilité, c'est un fait scientifique. Et alors, on peut très bien quantifier avec différentes méthodes cette contribution de l'homme au changement climatique. Vous avez ici à droite, donc, la première barre rouge, c'est l'observation du réchauffement observé, donc c'était dans les chiffres du GIEC, là, 1,09 degré, parce que c'était pour 2019. Désolé, mes slides sont tous en anglais, ça vient du rapport du GIEC, donc, mais j'essaie de les expliquer quand même. La deuxième barre rouge, c'est la contribution humaine totale à ce réchauffement, et bien, elle a exactement la même hauteur. D'accord ? Donc l'homme a contribué à réchauffer le climat exactement de la manière qu'on observe aujourd'hui. De l'amplitude qu'on observe aujourd'hui. Mais en fait, la contribution humaine, elle a plusieurs facteurs. C'est la première barre grise ou bleue, je ne sais pas ce que c'est comme couleur, que vous voyez là. C'est les 1,5 degrés dus aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, les émissions de gaz à effet de serre ont réchauffé le climat de 1,5 degré depuis cette période 1850 à 1900. Et en fait, il y a une autre contribution humaine, c'est l'émission d'aérosols, des petites particules de pollution essentiellement, des sulfates, etc., qui en fait refroidissent parce qu'ils font une espèce de parasol, ils bloquent le rayonnement solaire. Donc il y a ces deux facteurs, ces deux types d'émissions humaines qui jouent, et l'ensemble fait un réchauffement qui est exactement celui qui est observé. Et puis les facteurs naturels, on arrive très bien à les quantifier. Les volcans, le soleil, ça joue que dalle sur cette période-là. D'ailleurs, l'activité solaire, elle a diminué ces quatre dernières décennies. Donc, si vous entendez des gens... Donc on peut regarder ça en fonction du temps, je ne vais pas rentrer dans le graphique, c'est le genre de graphique que vous verrez, on utilise des modèles de climat, des codes numériques, un peu la même chose que les modèles de prévision météorologique, où on peut calculer l'évolution du climat contrefactuelle, c'est celle qu'on aurait eue s'il n'y avait pas eu d'impact de l'homme. On peut recalculer aussi le climat en prenant en compte l'activité humaine, et pour faire court, physiquement, on n'arrive pas à expliquer le changement climatique autrement que par l'activité humaine, et l'activité humaine l'explique très très bien. Alors, bon, j'ai parlé des températures moyennes globales. Ces activités, ce changement de température, ce réchauffement, ce changement climatique, évidemment, entraîne des événements extrêmes plus fréquents et plus intenses. Alors, pas tous, certains types d'événements extrêmes. On parle d'un réchauffement en moyenne globale, mais évidemment, les vagues de chaleur vont augmenter. D'accord ? Donc ça, c'est normal, leur fréquence, leur intensité. Donc là, vous avez une parodie d'une carte du globe. Je vais vous expliquer pourquoi on fait ce genre de carte un peu bizarre. On voit donc pour les différentes régions, si c'est en couleur, c'est qu'on a on peut attribuer une augmentation observée à l'activité humaine, et le nombre de points que vous voyez, c'est la confiance à laquelle, entre 1 et 3, on peut attribuer ce changement à l'activité humaine. Donc quasiment partout au monde, on voit une augmentation des vagues de chaleur, et on est assez certain que c'est dû à l'homme. C'est un peu moins évident, mais aussi quand même relativement évident pour l'augmentation des pluies extrêmes et pluies fortes. C'est un changement qui a été prédit il y a 60 ans déjà. C'est de la physique vraiment de base, un truc fondamental, très facile à comprendre quand on fait un peu de physique, que les précipitations extrêmes vont augmenter avec le réchauffement. D'accord ? C'est un peu moins évident pour les sécheresses. Les sécheresses ne vont pas augmenter partout. On n'a jamais prédit dans la littérature scientifique que les sécheresses vont augmenter partout. Il y a des régions qui sont extrêmement exposées à ça, par exemple les régions méditerranéennes. Et dans la Méditerranée, là, dans le petit hexagone Med que vous voyez là, on observe déjà une augmentation des sécheresses, et on peut l'attribuer à l'activité humaine. Et ce qui est important, c'est que dans la même région, on observe aussi une augmentation des pluies extrêmes. Et ce n'est pas une contradiction. Ça peut paraître bizarre, mais c'est complètement prédit comme ça. Voilà. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, ici. Donc, ces impacts qui sont généralement négatifs, et les pertes et dommages, qui sont un des sujets de la COP28 important, beaucoup sont attribués au changement climatique, alors quand c'est rouge... Ah oui, les couleurs ne sont pas les mêmes, en fait. D'accord. Quand c'est rouge, c'est des impacts globalement négatifs, par exemple sur l'agriculture. Alors vous me direz, les récoltes ont augmenté ces 40 dernières années. Oui, c'est vrai. Les récoltes ont augmenté globalement parce que les techniques ont avancé. Mais le changement climatique a réduit l'augmentation des récoltes au niveau global. D'accord ? Donc il y a un effet négatif. Donc vous voyez plein de domaines où le changement climatique a déjà des effets négatifs. Il y en a aussi d'autres, quand c'est en bleu, les effets ne sont pas encore très clairs. Par exemple, pour la biodiversité, on sait que... Pour l'instant, il y a beaucoup d'autres facteurs humains de pression qui sont beaucoup plus importants que les changements climatiques. Alors, quels sont les avenirs possibles ? Moi, en tant que physicien, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas savoir quelles vont être nos émissions de gaz à effet de serre au cours de ce siècle. C'est la conséquence de tous nos actes individuels, communs, des décisions politiques futures, etc. On ne peut pas savoir. Donc nous, ce qu'on fait, on fait des hypothèses d'évolution future des émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle des scénarios. Et ces scénarios, vous en voyez en haut à droite, là, on fait 5 scénarios. Un scénario vertueux, le bleu clair, d'émission de CO2, par exemple, le futur. Et puis un scénario du pire, le rouge, où on continue à émettre où il y a une augmentation des émissions. Et puis des scénarios intermédiaires. Et puis on met ça dans nos ordinateurs. Donc les ordinateurs qu'on utilise, c'est des supercalculateurs extrêmement puissants. Et puis ça mouline. À la fin, ça nous donne un résultat, ça simule des températures sur une centaine d'années. Et précipitations et tout ce que vous voulez. Et c'est ce qu'on voit en bas, les résultats de ces simulations en fonction des différents scénarios avec le même code couleur. La partie gauche sur mon graphique, c'est l'observation, d'accord, en fonction du temps, depuis 1950 jusqu'en 2015, ici, température qui a augmenté. Et la partie droite, en couleur, c'est les différents scénarios. Et donc, vous voyez ces scénarios. Alors, ce qui est intéressant, c'est la question du net zéro. Donc, le moment où on arrive à zéro émission nette, la neutralité carbone ou neutralité des émissions de CO2. Donc, là, vous voyez dans ce scénario bleu clair, si on le regarde là, vous voyez, à un moment, on arrive à zéro émission nette. C'est-à-dire on compense les émissions restantes par des opérations techniques ou par la croissance stimulée des forêts, etc. Mais en tout cas, il y a zéro dans ce scénario-là parce qu'on a fortement réduit nos émissions. Et quand on regarde bien, ben, ce moment où on arrive à net zéro, c'est le moment où dans le scénario de température en dessous, on arrive à stabiliser la température. Donc, message ultra important, si vous gardez qu'une chose en tête, ce que je vous raconte, c'est, s'il vous plaît, c'est ça. Net zéro, c'est le moment où on stabilise le climat. Ce n'est pas le moment où on est revenu au climat d'avant. D'accord ? C'est juste on est arrivé, on a arrêté de foncer dans le mur. On s'est arrêté. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est ça qui nous permet d'établir le budget carbone de l'humanité. C'est-à-dire, quand on trace maintenant ici la quantité totale de CO2 émise, donc ça c'est l'axe horizontal, depuis le début, donc ça se mesure en milliards de tonnes de CO2, donc à droite, et puis en vertical, vous tracez la température. Donc vous voyez la courbe en grise, ça c'est les observations, donc la température augmentée, les émissions cumulées, la quantité totale émise évidemment, elle augmente aussi, donc l'axe horizontal là, c'est implicitement un axe du temps, d'accord ? Et puis on met les mêmes scénarios, toujours le même code couleur là-dessus. Et puis on voit, en fait, ça fait une droite. Et c'est hyper sympa en fait pour un scientifique. Cette droite-là, parce qu'elle permet. Alors est-ce que bon, les gens sur Internet vont pas le voir, mais ici dans la salle, vous le verrez. Ça permet de faire ça. Alors vous voulez 2 degrés ? Super. Alors vous allez là, vous descendez et vous savez que l'humanité a droit à une émission totale de 3400 gigatonnes de carbone. Sachant qu'on a été déjà émis 2400, il reste 1000. Et pour 1,5, vous faites la même opération, 1,5, tac, tac, vous descendez à 2900, il reste 500. Ça, c'est les chiffres de 2019. Donc on sait quel est le budget carbone de l'humanité, il reste 500 gigatonnes à distribuer entre les 7 milliards d'humains, sachant que voilà, nous, on a déjà émis beaucoup dans le passé, etc. Enfin, vous... Après, c'est des discussions politiques, c'est moi en tant que physicien, j'ai rien à dire, mais le principe est très clair. Très bien, merci. Donc ce budget carbone résiduel, pour rester en dessous de 1,5 degré, il sera bientôt épuisé. Si vous comparez ici, oups, si vous comparez, les couleurs sont bizarres, désolé, les émissions de 2019, si on les fait sur 10 années, ça fait ça comme émission totale, 500 gigatonnes, parce qu'on émet à peu près 50 gigatonnes par an. Et ben c'est justement ce budget pour 1,5 degré. Donc à partir du moment, c'est si on continue avec les émissions de 2019 pendant une dizaine d'années, ben on a épuisé notre budget, on arrive à 1,5 degré. D'accord ? En plus, depuis 2019, on a encore augmenté nos émissions. Voilà, c'est pour ça que construire des nouveaux pipelines, des nouvelles infrastructures pétrolières, etc., ça n'a aucun sens. En tout cas, si on veut essayer, si en même temps on dit on veut limiter le changement climatique à 1,5 degré, c'est absolument pas compatible. Donc aujourd'hui, on est sur une trajectoire plutôt de 3 degrés. Donc pour limiter ce réchauffement à moins de 2 degrés ou près de 1,5, il faut réduire immédiatement, et les trois adverbes sont importants, immédiatement, durablement et fortement les émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez la courbe rouge là, c'est la tendance des émissions qui suit les politiques implémentées. Et en fait ça nous amènerait en 2100 à un réchauffement de 3 degrés à peu près. D'accord ? Avec des fortes incertitudes, mais on n'est pas du tout sur une trajectoire de 1,5. Les courbes bleues et vertes, là, ça, c'est les courbes d'émissions de gaz à effet de serre qui nous permettraient de limiter 1,5 degré. Donc, il faut aller vite, évidemment, très, très vite, des réductions extrêmement fortes, plus fortes que tout ce qui a été fait pour l'instant. Et donc, il y a cette partie d'émissions négatives que vous voyez en bas. Ça repose sur des techniques, comme c'est marqué, des déploiements de méthodes d'élimination des émissions de gaz à effet de serre ou d'élimination du CO2 présent dans l'atmosphère, qui soulèvent des questions de faisabilité, durabilité, de risque et qui sont risquées. Donc on ne sait pas encore le faire. C'est purement hypothétique. Donc, ces changements régionaux s'accentuent avec le réchauffement climatique. Là, vous avez des cartes. Par exemple, pour le changement de température du jour le plus chaud, pour 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, c'est toujours la même structure spatiale. C'est des choses qu'on comprend physiquement très bien, pourquoi c'est plus fort en Arctique, par exemple, pourquoi c'est plus fort sur les régions continentales que sur l'océan. Je peux répondre là-dessus. Ouh là là. C'est la même chose l'humidité du sol. On voit par exemple cet assèchement dans les régions méditerranéennes. Voilà, et donc certains changements sont irréversibles, comme le niveau des mers. Je ne vais pas rentrer dans le détail. L'important là, c'est de dire que le niveau des mers, il va continuer même si on stabilise le climat. Par contre, ce qui est important, c'est que dans les différents scénarios que vous voyez là, en bas au milieu, vous voyez que le changement climatique quand même se ralentit dans le scénario bleu, celui qui limite le changement climatique à 1,5 degré. Mais même dans le scénario où on limiterait, dans le cas où on limiterait le changement climatique à 2 degrés, ce que vous voyez tout à droite, la barre bleue à droite, vous avez à très longue échelle de temps, là pour 2300, une augmentation du niveau de la mer entre 2 et 6 mètres. D'accord ? Même plus, non, 2 et 3 mètres. Hein ? Non, c'était combien ? Non, 2 et 6, c'était pour le scénario très fort, et 50 cm et 3 mètres, c'était pour le scénario à 2 degrés. Enfin, c'est quand même pas négligeable du tout. Voilà. Et les plus vulnérables sont ceux qui contribuent le moins aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un fort aspect d'inégalité ici. Si vous tracez les émissions per capita sur l'axe horizontal et la vulnérabilité, un index de vulnérabilité pour les différents pays sur l'axe vertical, vous voyez que les plus vulnérables sont ceux qui émettent le moins. Donc ça, c'est et ceux qui sont les plus pauvres. Donc ça, c'est vraiment un aspect d'égalité qui est important. Je passe rapidement sur celle-là. Donc comment agir plus vite? Les deux dernières graphiques, ici. N'ayez pas peur, je ne peux pas rentrer dans les détails ici. Ce que vous voyez, c'est deux graphiques avec plein d'actions possibles pour les différents systèmes. Par exemple, pour l'énergie, vous voyez... La largeur d'une barre, c'est ce qu'on peut gagner en termes d'émissions, de réduction d'émissions pour les différentes options qu'on peut faire. Par exemple, la première, c'est le déploiement de photovoltaïque. La deuxième, c'est l'éolien, etc. Il y a d'autres domaines, par exemple l'utilisation des terres, l'eau et la nourriture, l'agriculture. Donc il y a plein d'actions dans plein de domaines qu'on peut faire. La couleur indique à combien ça coûte. Quand c'est bleu, c'est moins cher que l'utilisation des fossiles. Ou de ce qui existe pour l'instant, ce qu'on a comme référence pour aujourd'hui. Donc, c'est des actions à toutes les échelles, dans tous les domaines, donc énergie, terre, infrastructure, santé et aussi des styles de vie. Et ça doit se faire dans tous les domaines, à toutes les échelles, à l'échelle individuelle, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays, à l'échelle internationale. Et si on mettait en place toutes ces opérations-là, toutes ces actions conjointement, on aurait le moyen de limiter le changement climatique à 1,5 degré pour 2030 déjà. Donc ça serait possible. Dernière chose que je vais vous montrer, en gros, avant-dernière chose, c'est, et je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, c'est la frugalité, la sobriété qui est extrêmement importante. On ne peut pas que compter sur l'amélioration des techniques. La sobriété est une part intégrante de ces options que j'ai montrées tout à l'heure. Dernière chose, il y a de nombreuses co-bénéfices. Il n'y a pas que le changement climatique. Vous avez les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies, élimination de la faim, paix, éducation pour les enfants, air pur, etc. Vous avez ici, quand c'est bleu, ça montre qu'une action pour limiter le changement climatique a un co-bénéfice pour un autre objectif durable des Nations Unies. Donc vous avez ici, dans l'axe vertical sur le graphique à droite, les différents objectifs du développement durable. Vers la droite, vous avez différentes options pour agir sur le changement climatique et pour s'y adapter. Et à chaque fois, en gros, vous avez du bleu. Ça veut dire que vous faites quelque chose pour limiter le changement climatique, vous agissez aussi pour un autre objectif du développement durable. Par exemple, réduction de l'utilisation de la bagnole en ville, évidemment, ça améliore la qualité de l'air. C'est un autre objectif du développement durable. Donc ce genre de co-bénéfices, et ils sont massifs. Donc agir pour le climat, ce n'est pas seulement le climat. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous raconter. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la pédagogie dont vous avez fait preuve, et on est bien conscient que le temps contraint est un... Voilà, c'est pas facile d'en dire autant dans un temps aussi contraint, donc merci beaucoup. Alors, je le rappelle, celles et ceux qui veulent poser des questions le peuvent sur un numéro qui va se réafficher, mais en attendant, plusieurs questions me sont parvenues, et donc je vais me permettre de vous les poser. Première question, quel pourcentage des Français ou Européens fait partie des 10% qui génèrent le plus d'émissions à l'échelle mondiale? Est-ce que c'est plutôt 90, 95? Bref, n'y a-t-il pas illusion à faire croire que ce sont, entre guillemets, les riches de France, le top 10 en France, qui sont le problème, même s'ils ont évidemment un rôle majeur à jouer vu les marges de manœuvre dont ils disposent? Donc, ça, oui, c'est la première question.
Alors, bien sûr, les chiffres que j'ai montrés, c'est des chiffres globaux. Évidemment, les Français, en moyenne, sont beaucoup plus riches que la moyenne globale. Je ne connais pas exactement le pourcentage de Français qui rentrent dans le 10% du top mondial. C'est certainement beaucoup plus que 10% des Français. Ça, c'est évident. Donc, si j'ai donné cette impression-là, ce n'était pas du tout mon objectif. Je tablerai sur 40% des Français, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment, je devine, voilà. Faudrait regarder dans le détail.
Merci. Alors, une autre question d'un participant. Merci pour votre exposé, mais on n'arrive pas à comprendre la preuve de la responsabilité humaine sur un plan scientifique. Vous dites souvent, on peut attribuer, mais quelle est la certitude? Alors,
question pour la gratter. Certitude, c'est aussi certain que demain, le soleil va se lever. C'est un fait scientifique aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rentrer... Non, mais c'est sûr. Il y a trois décennies, quand on a écrit le premier rapport du GIEC, il y avait un constat d'attribution qui disait bon, le changement observé, il est compatible avec le changement climatique, avec ce qu'on prédit, mais ça peut être la variabilité naturelle. Aujourd'hui, le changement est tellement fort et la science a tellement évolué qu'on le sait avec certitude. Il y a des, par exemple, ça repose sur des méthodes de fingerprinting, d'empreintes digitales, dans le temps et dans l'espace. Comme j'ai dit, par exemple, dans mon premier graphique, le changement climatique induit par les gaz à effet de serre a une empreinte digitale spatiale, enfin ici dans la verticale, extrêmement claire. Il y a aussi dans le temps. On sait quand les émissions ont été faites, on sait par exemple quand les émissions d'aérosols qui ont refroidi le climat étaient particulièrement fortes, et bien c'était par exemple ici dans les 30 glorieuses. On a une signature de refroidissement observée qui est particulièrement forte dans les zones industrielles en Europe, en Amérique du Nord, induit par les aérosols qu'on observe ici. Donc avec ce genre de méthode spatiale et temporelle, on peut travailler sur des méthodes statistiques d'attribution. Alors justement, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que je ne rentre pas dans le détail. C'est pour ça justement que ce monsieur Klaus Hasselmann, donc à droite, a obtenu son prix Nobel de physique. Alors, je ne vais pas expliquer les méthodes statistiques qui ont permis d'avoir un prix Nobel de physique à quelqu'un ici en 3 minutes. Malheureusement, ce n'est pas possible. Mais le fait est que ces méthodes-là ont valu un prix Nobel à quelqu'un, donc on peut vraiment croire que c'est du béton scientifiquement. Voilà.
Merci. Alors, on me dit la dernière question, alors je vais vous en poser deux parce qu'elles sont toutes les deux très intéressantes. Que pensez-vous de l'option nucléaire pour agir pour le climat, comme le suggère M. Jancovici? Deuxième question, où en est la science sur le déclenchement d'un effet de serre galopant, on dit en anglais visiblement « runaway greenhouse effect », existe-t-il un seuil identifié irrécupérable? Voilà pour mes deux dernières questions.
Alors, le nucléaire. Vous avez ici ce graphique que je vous ai déjà montré. Il y a aussi le nucléaire ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la sixième barre, si j'ai bien compté. Alors, ça, c'est les contributions potentielles pour la réduction d'émissions en l'an 2030. La barre du nucléaire est très petite et les couleurs sont... Ce n'est pas bleu, ça, c'est surtout rouge et jaune. Et puis noir, ça veut dire que ça coûte très cher. Là, on parle de 2030. Pourquoi la barre du nucléaire... Le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 est faible pour le nucléaire, c'est parce qu'il faut beaucoup de temps pour installer, pour planifier une centrale nucléaire, pour l'installer. C'est pour ça que la barre ici est particulièrement petite. Une centrale nucléaire, le temps de vider la ZAD et d'installer, d'accord, il faut du temps. Donc la barre ici est petite pour cette raison-là. Après, le nucléaire est cher, ça aussi. Mais à long terme... l'issue de secours est pas loin, d'accord, donc je peux le dire. Le nucléaire est clairement, si on raisonne que pour le climat, est une bonne chose, ça c'est sûr. Ça émet zéro carbone, zéro CO2, donc ouais. Après, il y a plein d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte, d'accord. Il n'y a pas que le climat dans la vie, mais voilà. Voilà, donc ça, ça c'était pour cette chose-là. Ici. Et la deuxième question, pardon, c'était ?
La deuxième question, c'était...
Je ne sais plus.
C'est où en est la science sur le déclenchement d'un déclenchement galopant ?
Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque que le changement climatique, tout d'un coup, deviendrait galopant par des effets de rétroaction de façon brutale, qui s'amplifierait soudainement, brutalement, au niveau global. Il n'y a pas de littérature scientifique qui montre ça, donc on peut, avec quasi certitude, l'exclure, en tout cas pour la prochaine centaine d'années, dans un réchauffement causé par l'homme avec les émissions de gaz à effet de serre qu'on peut raisonnablement imaginer. C'est un runaway greenhouse effect, comme on l'appelle. Ça peut arriver dans quelques milliards d'années, quand le soleil deviendra très fort et les océans commencent à s'évaporer, et là, il y a des effets de rétroaction qui se mettent en place, qui peuvent ensuite faire exploser quasiment la Terre, enfin, arriver à un réchauffement de plusieurs centaines de degrés, mais on est très très loin de ça. Par contre, des effets de bascule régionaux sont possibles, notamment par exemple en Amazonie, que l'Amazonie s'assèche, il peut y avoir des rétroactions qui se mettent en place, ça s'assèche, il y a moins de végétation, la végétation normalement elle fait beaucoup d'évaporation, donc crée sa propre pluie, si elle meurt, ça fait moins de pluie, donc ça devient de plus en plus dramatique. Donc la transformation de l'Amazonie d'une forêt tropicale en une zone de savane, c'est quelque chose qui est possible et c'est peut-être déjà enclenché. Quand on voit les sécheresses qu'il y a actuellement en Amazonie, c'est de plus en plus fréquemment. Personnellement, je ne serais pas surpris si dans les décennies qui viennent, ça serait le premier point de bascule régionaux qu'on observerait suite au changement climatique. Et en plus, les gens, ils coupent les forêts de toute manière là-bas. Enfin bref.
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris ce temps. On peut applaudir notre intervenant. Merci pour la clarté, l'exigence de vos propos.